Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur Radio Territoria.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, le magazine coproduit par Radio Territoria et la DGALN, la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature. Aujourd'hui, quatrième émission consacrée au programme de dématérialisation de l'application du droit des sols, dit programme DEMAT ADS. On va notamment parler de plateau avec vous, Jean-Baptiste Lanne, directeur du programme DEMAT ADS. Bonjour.
Bonjour Johanna.
Vous êtes en forme ?
Très en forme.
Tant mieux, parce qu'on a une belle émission qui nous attend. Et comme toujours, nous sommes accompagnés de Michel Félep, chargé de mission animation territoriale DHUP DGALN. Bonjour Michel.
Bonjour Johanna.
Vous répondrez en fin d'émission aux questions de nos auditeurs. En attendant, on attaque avec la thématique du jour.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, la thématique du MAG.
Je le rappelle à chaque début d'émission, et vous n'allez pas y échapper aujourd'hui encore, la dématérialisation de l'application du droit des sols vise à dématérialiser l'ensemble de la chaîne d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, depuis le dépôt de la demande par le pétitionnaire jusqu'à la réalisation de son projet. Dans nos trois dernières émissions, nous avons beaucoup parlé des conséquences de la dématérialisation dans les collectivités territoriales et de la manière dont ils sont invités à se préparer. Aujourd'hui, le thème de notre émission est en apparence plus technique puisque nous allons parler des outils que l'État met en place et notamment de plateaux pour aboutir à cette dématérialisation au 1er janvier 2022 puisque c'est l'échéance fixée par la loi Élan. Mais que nos auditeurs se rassurent, Jean-Baptiste, je compte à nouveau sur vous pour être pédagogue et très concret dans vos réponses.
Je vais effectivement m'y employer et puis nous avons prévu des interviews et des témoignages qui permettront de rendre cette émission plus vivante et plus concrète.
En effet. Et d'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons écouter une courte interview d'Emmanuel Wargon, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique chargée du logement, qui a présidé le comité de pilotage du programme DEMAT ADS mardi dernier. Bonjour Madame la Ministre, ravie de vous accueillir dans ce MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Vous êtes avec nous ce matin car vous avez présidé un comité de pilotage du programme DEMAT ADS ce mardi. Pour quelles raisons souhaitez-vous vous investir dans un sujet aussi technique que la dématérialisation de l'application du droit des sols ?
En fait, je pense que c'est un sujet extrêmement important pour le ministère, pour les collectivités et donc pour notre capacité à répondre aux besoins de logement des Français. Nous avons besoin de relancer la construction neuve. Pour ça, on a à la fois besoin de revoir notre équation économique et fiscale, mais aussi faciliter au maximum l'instruction des documents d'urbanisme. Et ce projet de dématérialisation, avec une échéance finalement assez rapprochée, c'est un très gros projet partenarial entre le ministère du Logement et beaucoup d'autres ministères, entre l'État et les collectivités territoriales, et entre le secteur public et beaucoup de partenaires privés. Et du coup, vu la taille et l'ampleur et l'importance du projet, ça me paraissait normal de donner une impulsion au président du comité de pilotage.
À la suite de ce COPIL, quelle est la situation par rapport à ce projet et quelle est votre appréciation, vous, sur cette situation ?
Alors, et beaucoup de choses intéressantes ont été dites. Les collectivités, donc le bloc communal nous a présenté un sondage auprès des communes et des intercommunalités qui montre que le projet est inégalement connu, bien connu dans les intercommunalités, mal dans les communes, mais que la logique de dématérialiser est acceptée par tous. C'est d'ailleurs qu'elle s'est même plutôt renforcée, bien sûr, avec la crise Covid. C'est aussi un projet qui est bien identifié dans les différentes administrations et je trouve qu'il y a une volonté de travailler ensemble et un très bon alignement des acteurs. Après, on a beaucoup de jalons. En fait, c'est une conduite de projet dans laquelle on a à la fois de la technique, technique côté État, technique côté éditeur de logiciels, et de la conduite de changement, communication, information, appropriation métier, formation, le CNFPT était là. Donc, il y a beaucoup de dimensions, mais c'est plutôt positif, parce que c'est même très positif, parce que je crois qu'on a tous envie d'avancer et d'avancer rapidement.
Et alors justement, puisque vous parlez de rapidité, est-ce qu'après ce COPIL, vous pensez que la date fixée au 1er janvier 2022 sera respectée ?
Là, pour le coup, c'est pas une question de le penser ou pas, c'est de faire en sorte qu'elle soit respectée. On a une date, elle est impérative, elle est dans la loi Elan, ça représente un besoin, je pense, ce sera une amélioration à la fois pour les professionnels et pour les particuliers. Donc, c'est pas un pronostic, c'est une action à nous de faire en sorte que cette date soit respectée. Donc, c'est ce que je vous disais, il y a beaucoup de jalons. Il y a un moment important pour moi qui est juin 2021, parce que je voudrais que tous les services de l'État soient prêts à être connecté à la plateforme Plateau et donc à accueillir des dossiers dématérialisés pour les collectivités qui commencent en avance de phase. Et donc oui, nous allons tout faire pour être prêts.
Merci Madame la Ministre pour nous avoir accordé
Merci
ces quelques minutes.
Merci et bravo à la DHUP pour la conduite de projet.
Jean-Baptiste, une petite réaction à ce qu'on vient d'entendre ?
Alors, c'est un piège, Johanna. Je me garderai bien de commenter la parole de la ministre, évidemment. Par contre, pour les équipes du programme, ainsi que pour tous les intervenants, et il y en a pas mal qui nous écoutent, c'est un grand honneur qu'elle ait présidé ce COPIL, et bien évidemment, c'est énormément de pression. Elle nous a donné rendez-vous en janvier prochain pour faire un point d'étape, pour voir comment les choses et les choses ont avancé et les engagements ont été respectés. On donnera de la visibilité sur ce jalon à nos auditeurs.
Évidemment, on en reparlera sur Radio Territoria. Revenons sur le sujet, si vous le voulez bien, qui nous occupe aujourd'hui. Qui dit dématérialisation dit outils numériques. Alors tout d'abord, quels sont ces outils que l'État conçoit pour dématérialiser la chaîne de traitement des autorisations d'urbanisme ?
Alors, on conçoit plusieurs outils. Si vous avez regardé les présentations, vous en voyez apparaître plusieurs qui sont construits. On les a nommés XXAU, XX pour préciser la nature de l'outil, puis AU pour autorisation d'urbanisme. Il y en a pour le moment 5, Plateau, ADO, RIO, AVISO et PREO. Je ne vais pas m'attarder sur tous ces outils, ça serait un peu compliqué. On y reviendra certainement lors d'une émission prochaine. Mais je voudrais surtout évoquer la plateforme des autorisations d'urbanisme Plateau.
Alors, à quoi sert-elle, cette plateforme ?
Alors, cette plateforme, c'est le cœur de la dématérialisation. Cette plateforme va jouer un rôle de hub connecté à l'ensemble des outils numériques du processus d'instruction. Concrètement, son objectif, c'est de permettre que tous les acteurs de l'instruction, que ce soit les collectivités territoriales au premier chef, mais les directions départementales des territoires et les services consultés, puissent avoir accès au même dossier et n'aient pas finalement à se connecter les uns aux autres. La complexité de la complexité du processus d'instruction, c'est le fait qu'il y ait énormément de consultations qui soient réalisées pendant l'instruction et qui nécessitent que les services consultés soient tous connectés avec les services instructeurs et que les services instructeurs soient connectés avec de multiples services consultés. J'ai une très jolie anecdote du général commandant de la BSPP, mais comme on a un timing assez serré, on la racontera la prochaine fois ou lors d'une autre émission.
On prend beaucoup de rendez-vous ce matin.
Oui.
Est-ce que ce que vous venez de nous dire signifie que tous les acteurs que vous avez cités doivent acheter une licence et installer cet outil Plateau comme on le fait avec d'autres logiciels ?
Non, en fait, non, pas du tout. Plateau, c'est un outil qui sera à disposition, qui sera central, et ce sont les outils métiers des différents acteurs, des parties prenantes, qui devront se connecter à Plateau. Rien n'est payant dans l'utilisation de Plateau. Par contre, il faut développer le raccordement à cet outil. Aujourd'hui, la grande majorité des services disposent d'outils informatiques. C'est le cas de nombreuses collectivités, voire de la grande majorité des collectivités territoriales et des intercommunalités qui ont des outils logiciels dédiés à l'instruction, des outils métiers. Ces outils, ils doivent évoluer de deux manières. Le premier, c'est gérer des dossiers dématérialisés, évidemment, pouvoir accéder à ces dossiers dématérialisés. Et la deuxième évolution, c'est pouvoir se raccorder à Plateau. Pour les directions départementales des territoires et de la mer, le cas échéant, ils disposent d'un outil historique qui s'appelle ADS 2007 et qu'on a remis au goût du jour pour leur permettre deux choses, là encore, que ça soit raccordé à Plateau pour pouvoir récupérer les dossiers qui leur sont dévolus et aussi pour pouvoir, depuis cette application, gérer des dossiers dématérialisés. Et on travaille d'ores et déjà avec les services consultés, au premier rang duquel ceux du ministère de la Culture, pour qu'ils puissent se raccorder à Plateau avec leur propre outil de gestion. Je préfère le dire, Plateau n'est pas du tout un outil métier. Il n'y a personne d'individuel, aucune personne physique se connecte à Plateau. Il n'y a pas d'interface homme-machine. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Ça veut dire que les gens vont, les instructeurs, les services consultés vont garder leur outil métier. La seule chose, c'est qu'on va leur permettre de récupérer ou de déposer le dossier, de récupérer des demandes de consultation et de déposer des avis. Donc quand on dit dossier, on parle à la fois des informations structurées, celles qu'il y a dans les différents CERFA. Donc toutes ces informations-là, les informations du CERFA seront stockées convenablement pour pouvoir être utilisées par tous les systèmes d'information. Et puis, il y a toutes les pièces justificatives, les plans, les notices d'architecte, les différentes attestations, et qui, eux, seront aussi déposées dans Plateau. Donc, à cela se rajoute que le centre instructeur pourra, depuis Plateau, depuis son outil métier, faire une consultation, c'est-à-dire demander un avis à un service consulté. Et cette consultation transitera par Plateau, sera rebasculée sur l'outil du service consulté. À l'inverse, le service consulté pourra, transmettre au service instructeur sa réponse par l'intermédiaire de Plateau.
Tout ça concerne les acteurs qui ont déjà des outils informatiques pour l'instruction, mais ce n'est pas le cas de tous. Alors, quid de ces acteurs qui ne disposent d'aucun outil numérique et qui traitent tous les dossiers en version papier ?
Alors, pour les collectivités, on va se concentrer sur les collectivités. On reviendra peut-être sur les services consultés par la suite. Mais pour les collectivités, deux cas de figure. Ce sont des collectivités qui n'instruisent pas leurs demandes d'autorisation d'urbanisme, en particulier les communes qui dépendent du règlement national de l'urbanisme, qui n'ont pas de document d'urbanisme. À ce moment-là, on a construit un outil va permettre de récupérer les dossiers dématérialisés. Et cet outil s'appelle Rio. On le présentera peut-être une fois prochaine. Mais c'est pour les communes qui sont RNU, sont plutôt des communes petites en taille. Ce sont des communes rurales qui n'ont pas jugé nécessaire d'avoir des documents d'urbanisme. Et puis l'autre cas, il peut y avoir quelques communes, mais on n'en identifie pas beaucoup, qui sont compétentes et qui instruisent leur demande d'autorisation d'urbanisme et qui ne sont pas outillées. Celles-là devront faire l'effort de s'équiper avec un outil informatique et de se raccorder à Plateau.
Donc si on vous écoute, on se dit que finalement le programme DEMAT ADS représente un important bouleversement au niveau des systèmes d'information pour les collectivités territoriales.
C'est tout à fait certain. C'est un gros bouleversement parce qu'il va falloir s'équiper, il va falloir se former, s'organiser et pour respecter l'échéance. Donc c'est vraiment des travaux importants qu'il faut commencer dès maintenant. Et puis ça emmène beaucoup de problématiques connexes qui peuvent concerner l'archivage, les questions de signature, la gestion opérationnelle et managériale des dossiers. Tout ça doit être instruit et c'est d'autant plus vrai qu'il peut y avoir des structures plus ou moins complexes puisque vous pouvez avoir une intercommunalité qui instruit tous ou partie des dossiers. Donc nous, clairement, comme il faut beaucoup de services et de prestations pour arriver à faire ça, nous, on a travaillé avec l'UIAP pour qu'elle puisse présenter une offre de services et de prestations au bénéfice des collectivités facilement et rapidement mobilisable. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut être utile.
Et alors justement, puisque vous parlez de l'UGAP, c'est parfait, vous me faites la transition. Nous allons maintenant écouter Reza Bacha, il est chef du département marketing, produits informatiques et télécom, et il nous explique en quoi consiste l'offre de l'UGAP qui permet en effet d'acquérir une solution logicielle facilement. Il nous parle aussi beaucoup plus largement de l'ensemble des prestations de l'UGAP pour accompagner le mouvement de dématérialisation. On écoute Reza Bacha. Bonjour Reza Bacha, pourriez-vous nous présenter l'UGAP ?
Alors, l'UGAP est une centrale d'achat public, généraliste et nationale. Alors, nous avons un modèle d'achat pour revente qui permet à nos clients d'accéder facilement, immédiatement et sans avoir à conclure un quelconque marché, à plus d'un million de références issues d'environ 3400 marchés actifs. Alors, tout acheteur public qui s'adresse à elle est donc dispensé de ses obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui sont imposées en général dans le cadre d'un appel d'offres. Alors, nos clients sont principalement les collectivités territoriales, les administrations, les établissements publics de l'État, le secteur social et les établissements publics de santé. Alors, l'établissement emploie près de 1500 collaborateurs et a enregistré en 2019 une activité de plus de 4,6 milliards d'euros hors taxes. Alors, le gap au travers des achats qu'elle réalise, c'est aussi un outil de mise en œuvre des politiques publiques. J'entends par là tout ce qui est en rapport avec la rationalisation de la dépense, le développement durable, le soutien aux PME, à l'emploi local et à l'innovation. Et pour finir, j'y tiens, l'UGAP a reçu en 2019 le label Relations fournisseurs et achats responsables décerné par le ministère de l'Économie et des Finances.
Quels sont les services que vous pourriez proposer pour accompagner les collectivités territoriales sur le programme DEMAT-ADS?
Alors, nous mettons à disposition de nos clients plus d'une centaine de marchés consacrés à l'univers informatique. Alors, ces marchés proposent des offres de plusieurs types. D'une part, du matériel informatique. Alors, ça va du PC jusqu'à l'infrastructure serveur complexe, en passant par des imprimantes ou encore des moniteurs, des écrans tactiles, etc. Nous proposons également des logiciels. Là, ça va de l'application simple qu'on peut trouver sur n'importe quel smartphone, jusqu'au logiciel d'infrastructure. Et enfin, des prestations de services informatiques et d'accompagnement. Pour le service, on propose des prestations d'installation, d'intégration de matériel acheté à l'UGAP, mais aussi de l'audit, du conseil, de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, de la formation, etc. Alors, il faut savoir qu'au travers de ces marchés publics, nous pouvons prendre en charge des projets informatiques de bout en bout, qui peuvent être simples, par exemple une commande de matériel, PC, imprimante, etc., que nous pouvons livrer en moins de 5 jours, mais aussi très complexes, comme par exemple des projets complets de refonte d'infrastructures informatiques ou de digitalisation des services. Alors, nous sommes un outil d'accompagnement, comme je disais, aux politiques publiques et notamment aux politiques de digitalisation du secteur public. Nous accompagnons des collectivités, par exemple sur des sujets comme l'école numérique, la sécurité des systèmes d'information, le RGPD, la Smart City, l'inclusion numérique, le télétravail, etc. Et bien sûr, la dématérialisation. Alors nous le faisons très souvent, ces sujets, nous travaillons ces sujets très souvent en partenariat avec les ministères pour être en adéquation avec les politiques gouvernementales. Alors, le projet DEMAT-ADS, il s'inscrit parfaitement dans notre volonté d'accompagner nos clients vers la dématérialisation des services aux citoyens. Nous proposons ainsi toute une panoplie de matériel et de services qui pourraient aider les collectivités dans la réalisation de leurs projets. Nous pouvons mettre à disposition, par exemple, du matériel pour les services d'urbanisme, des postes de travail, avec des moniteurs grande taille pour le traitement graphique, pour la lecture de plans, pour la modification de plans, des écrans interactifs tactiles pour modifier, partager les documents sur grand écran, des scanners de production, bien sûr, pour numériser en masse. C'est des choses qu'on fait très régulièrement. Ensuite, nous mettons également des logiciels à disposition, des logiciels de GED et de dématérialisation. Des solutions de connexion haut débit, puisque pour dématérialiser, ça passe forcément par des tuyaux, et des bandes passantes qui soient augmentées. Concernant les services, nous proposons des services d'installation associés, bien sûr, lorsqu'on livre en fait tous les matériels que je vous citais, on peut également les installer avec et intégrer les logiciels qui sont correspondants. Et nous avons tout le service conseil et accompagnement sur des projets de dématérialisation. Alors du début à la fin du projet, avec notamment des offres d'assistance à la dématérialisation, où on va faire l'état des lieux, le pilotage, l'aide au choix des systèmes à choisir, du conseil en système d'information, Là, on va faire du conseil, par exemple, sur la sécurité des systèmes d'information, du conseil sur le règlement général à la protection des données. Est-ce qu'on est en conformité sur ces sujets? Et nous proposons également, en fait, du conseil en organisation, la dématérialisation des sujets informatiques, c'est aussi de la réorganisation et de l'accompagnement au changement. Et nous proposons des formations pour les collaborateurs. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que nous pouvons accompagner les collectivités à n'importe quelle étape du projet de mise en place du programme des MATADS, que ce soit en amont ou en aval.
Concrètement, comment les collectivités peuvent bénéficier de ces services et à qui doivent-elles s'adresser ?
Alors, les collectivités peuvent bénéficier de ces services en contactant une de nos 25 délégations territoriales, donc ils pourront retrouver les coordonnées sur notre site ugap.fr. Alors, c'est en effet une force de l'UGAP, hein. Nous sommes implantés dans les territoires pour être au plus proche des projets et des problématiques régionales. Nous étudions les projets dont nous font part nos clients. Nos conseillers spécialisés en informatique sont en charge d'évaluer les moyens et les services à mettre en œuvre pour les mener à terme. S'ensuit ensuite des échanges, des réunions en tripartite avec nos titulaires de marché. Donc il y a une relation tripartite avec nos constructeurs, titulaires de marché, clients, pour réaliser les projets. Alors il est important de noter que l'UGAP exécute ces marchés, c'est-à-dire que nous sommes garants de la bonne exécution des prestations et de la conformité des livrables. Donc les bons de commande sont adressés à l'UGAP qui va ensuite mettre en action ses fournisseurs. Et enfin, je tiens à signaler que nous travaillons en collaboration avec les ministères pour que les services que nous proposons soient en adéquation, bien sûr, avec les directives imposées par la loi Elan.
Merci, Monsieur Bacha. Jean-Baptiste, on vient d'entendre, l'UGAP propose un vaste panel de prestations, que ce soit en termes d'acquisition de matériel ou de solutions informatiques, mais aussi d'accompagnement à la conduite du changement.
Oui, alors c'est exact. Et ce qui est intéressant, c'est que l'offre de l'UGAP est réellement à tiroir. C'est-à-dire que dans l'ensemble des choses qu'on a à faire dans le cadre d'une opération de dématérialisation d'ampleur comme celle que nous envisageons, on peut avoir besoin de différentes compétences. Il y en a certaines qu'on a peut-être, il y en a certains matériels qu'on a déjà ou on a déjà des marchés, peu importe. Mais il peut y avoir des trous et dans ces ressources. Et ça peut être intéressant à ce moment-là de se rapprocher de l'UGAP qui est vraiment facilement accessible.
Si on revient à plateau, que faut-il faire une fois que la collectivité dispose d'une solution numérique d'instruction ? Le raccordement pour avoir accès au dossier dématérialisé est automatique ?
Non, c'est pas automatique. Je pense que la première chose, c'est de se rapprocher de son éditeur de solutions logicielles, donc les personnes qui ont fourni la solution, soit historiquement ou soit le cadre dans un nouveau marché. Parce qu'il y en a déjà 7 hein, qui participent aux expérimentations et qui ont des solutions qui peuvent se raccorder à plateau. Effectivement, quand je dis qu'ils ont des solutions, c'est pas une vue de l'esprit, ils se raccordent à plateau et nous envoient des dossiers. Et puis après, vous avez une procédure un peu stricte, une procédure d'enrôlement qui va permettre aux outils métiers de se raccorder à plateau et donc d'accéder ou de transmettre des dossiers dématérialisés.
Vous avez pris plusieurs engagements hein, depuis le début de cette émission, dont celui d'être pragmatique, je vais y arriver, ouais. Et concret. Alors, concrètement du coup, pourquoi est-il nécessaire de suivre cette procédure d'enrôlement et par quelle étape il faut passer ?
Alors, c'est vrai que j'emploie des termes techniques. En même temps, je suis un peu obligé. On parle de raccorder des applications informatiques. C'est pour moi un moment important de dire, pour une collectivité, c'est important d'associer à cette dématérialisation les responsables systèmes d'information de la collectivité, puisque les opérations sont quand même des opérations essentiellement informatiques pour raccorder les différentes applications. Pourquoi faut-il procéder à un enrôlement ou en tout cas suivre une procédure d'enrôlement ? L'enrôlement, ça permet au système d'information des collectivités de réaliser un certain nombre d'actions dans plateau et donc d'accéder aux différents services qui sont proposés dans plateau. derrière le terme enrôlement, on l'entend, il y a rôle. Et en fait, pour bien comprendre, c'est que tout le monde n'a pas le droit de faire n'importe quoi dans Plateau. D'abord, et ça c'est en premier lieu, n'accèdent à Plateau que les systèmes qui sont dûment autorisés, c'est-à-dire que y a pas, c'est pas accessible directement sur Internet. Il faut pouvoir, pour accéder à Plateau, avoir montré patte blanche. Et deuxièmement, dans un deuxième temps, l'enrôlement permet de définir les différents acteurs qui se connectent. Alors quand je dis acteurs, il faut bien le comprendre comme institution partie prenante. Je vais prendre un exemple pour une intercommunalité. Vous pouvez avoir un seul système d'information qui se raccorde à Plateau et qui recouvre à la fois le rôle du centre instructeur et le rôle des autorités compétentes. Je donne un exemple. Le centre instructeur, lui, sera en capacité d'envoyer des consultations pour recevoir en retour des avis, comme je l'ai dit précédemment. Et le rôle des autorités compétentes, ce sera de verser les décisions et de saisir les dossiers, les services de la préfecture pour le contrôle de l'égalité. Alors, vous allez, avant que vous me posiez la question d'être encore plus pratique et d'être plus prosaïque, quelles étapes il faut passer ? Alors, ça va m'être difficile dans le cadre de cette émission de répondre en vous détaillant les différentes étapes, comment il faut se connecter, quels sont les services qu'il faut contacter. Par contre, tout ça, c'est décrit dans Osmose, la plateforme dont on a parlé à plusieurs reprises. Qui se consolide et qui devient de plus en plus fournie. Donc pour trouver le lien d'inscription sur Osmose, c'est facile. Il est disponible sur la page Internet du ministère de la Cohésion des Territoires dédiée à la dématérialisation des autorisations d'urbanisme.
Osmose, vous l'avez dit, on en a beaucoup parlé, on en parle même tous les mois. Et d'ailleurs, tous les auditeurs qui souhaitent être informés de l'actualité du programme sont invités à s'inscrire sur Osmose. Justement, en juillet dernier, vous avez communiqué sur la mise en production de la première version de Plateau. J'imagine que c'est une très bonne nouvelle, mais quelles sont les prochaines étapes ?
Alors, c'est une très bonne nouvelle. On l'avait rapidement évoqué. Pour nous, c'est important pour toutes les équipes qui ont travaillé sur ce sujet. On est déjà à la troisième. On va bientôt sur nos espaces de recettes, sur les espaces partenaires qui permettent à nos différents partenaires de travailler. On va bientôt publier la version 3 de Plateau qui sera mis en production d'ici la fin de l'année. Donc, puisque à chaque fois on rajoute des fonctionnalités dans Plateau, ça me permet de dire. Le travail que l'on fait pour vérifier que Plateau fonctionne, pour vérifier que les systèmes des collectivités territoriales communiquent et fonctionnent bien avec Plateau, sont faits avec des collectivités et DDDT expérimentatrices qui participent aux tests de raccordement de leur système d'information, les fameux 7 éditeurs dont je parlais précédemment, à Plateau. Je tiens à les remercier, toutes ces équipes, que ce soit en collectivité ou que ce soit en DDT. J'en profite aussi pour remercier les équipes qui travaillent sur les sujets informatiques et les équipes de la direction de programme, parce qu'on avance tout à fait convenablement et qui maintiennent leur engagement dans le programme, malgré la crise sanitaire, malgré les vacances, malgré les congés. On avance vraiment très, très rapidement.
Et justement, encore une transition que vous m'envoyez parfaitement, puisque nous allons écouter deux témoignages, celui de Sylvie Devin de la DDT du Rhône et celui de Nadine Kiefer de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, deux acteurs territoriaux qui participent aux expérimentations et qui nous racontent concrètement comment leur expérience sur le programme, deux témoignages qui encourageront, on l'espère en tout cas, d'autres acteurs à rejoindre cette démarche. On les écoute, on revient juste après. Bonjour Sylvie Devin, vous faites partie des 13 premières DDT expérimentatrices du programme de dématérialisation des autorisations d'urbanisme. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?
Bonjour. Alors, faire partie du programme de dématérialisation des autorisations d'urbanisme, c'est avant tout s'inscrire dans une démarche visant à simplifier les procédures liées aux demandes d'occupation des sols qui aujourd'hui s'effectuent beaucoup encore en version papier. Cette démarche, elle s'inscrit pleinement dans la volonté de l'État d'accélérer le rythme de la transition numérique. Alors après, concrètement, en quoi ça consiste ? Eh bien, ça consiste à tester dès à présent des outils. Donc, dans ces outils, on va retrouver la plateforme Plateau qui est mise en place par l'État et qui va permettre justement d'échanger les dossiers en version dématérialisée, donc complètement plus de papier. Après, ça consiste aussi à tester tous les équipements qui seront mis à disposition des futurs des instructeurs. Et notamment, on va y retrouver tout ce qui va être l'environnement de travail, donc des double écrans 24 pouces, des ordinateurs boostés pour permettre d'ouvrir les dossiers dématérialisés, et aussi, donc au sein de chaque DDT, un grand écran tactile qui va permettre de retrouver la possibilité d'étaler des grands plans. Donc là, on les étalera de manière numérique pour travailler ensemble et pouvoir se réunir et travailler sur des dossiers de manière collective. Et puis après, expérimenter aussi, c'est mesurer les changements qui vont être impactés par cette dématérialisation, puisqu'on voit bien déjà, nous qui le faisons, qu'il y a une grosse modification pour l'instructeur qui aujourd'hui travaille beaucoup en papier, fait des envois. Et donc là, il faut aussi accompagner cette démarche parce que les instructeurs vont devoir évoluer dans leur manière de travailler.
Alors justement, quel conseil pourriez-vous donner à une DDT qui se lance dans ce programme de dématérialisation ? Par quoi commencer ?
Alors déjà, moi ce que je lui dirais, c'est qu'elle a raison de rejoindre dès à présent le programme parce que ça lui permettra d'être mieux préparée pour l'échéance le 1er janvier 2022 qui est vraiment demain. Ensuite, je lui dirais qu'il faut vraiment qu'elle s'associe, qu'elle s'entoure d'une équipe motivée en pensant bien à intégrer son service informatique parce que vraiment, c'est beaucoup d'informatique et puis c'est vraiment une part importante. Et puis ensuite, voilà, il faut que les agents soient motivés parce que l'expérimentation, ça ne fait pas gagner du temps, ça en fait plutôt en perdre aujourd'hui, mais pour ensuite en gagner. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et ensuite, le troisième facteur, c'est vraiment qu'elle ait une collectivité ou des collectivités qui sont aussi motivées et qui sont prêtes à s'investir dans la démarche et à tester les échanges dématérialisés. Et puis voilà, je lui dirais aussi, pour l'inciter à participer, qu'elle peut compter sur une équipe projet au sein de la DGALN très motivée et qui est aux côtés des DDT pour justement faire que cette expérimentation aboutisse à un très beau projet.
Nous avons vécu une période de confinement et là, la situation sanitaire rend toujours d'ailleurs difficile hein, les rencontres physiques. Qu'est-ce que cela veut dire pour la dématérialisation selon vous ?
Alors pour moi, cette expérience de confinement qu'on a subie, elle a encore plus montré l'urgence de procéder de manière dématérialisée. Puisque pendant cette période-là, les instructeurs se sont retrouvés très pénalisés puisque leur dossier étant uniquement en version papier, ils n'ont pas pu travailler comme ils le faisaient habituellement, qu'il a fallu qu'ils emportent leur dossier chez eux et avec ensuite une grosse difficulté pour pouvoir échanger avec leur hiérarchie ou avec leurs collègues sur ces dossiers-là. Et puis aujourd'hui, toutes les envois, les consultations se font de manière papier et par voie postale. Et ça a aussi rendu très difficile les échanges, puisque les services étant fermés, les consultations arrivaient dans des services qui ne les récupéraient pas. Donc, ça a été une période très difficile et qui aurait pu être beaucoup simplifiée par la mise en place de la dématérialisation.
Merci Sylvie Devin d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Nadège Kiefer, vous êtes responsable du pôle urbanisme et services instruction du droit des sols de la communauté d'agglomération du Val de Fensch dans le département de la Moselle et vous faites partie des premières collectivités territoriales volontaires pour expérimenter le programme de dématérialisation des autorisations d'urbanisme. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ?
Alors, la dématérialisation, pour moi, c'est une avancée assez naturelle dans le service public. Tous les services tendent à y aller depuis quelques années. Donc, moi aussi, je me suis dit, en collaboration avec mes communes membres, de tester un petit peu la démarche. Donc, on est déjà parti il y a environ 2 ans avec mes communes. Et lorsque l'État a sorti le programme DEMAT ADS d'expérimentation et que la DDT 57 et mon éditeur de logiciel CMSDI ont pris le pas d'intégrer le programme, je suis partie avec eux. Et de même que donc mes collègues de la DDT de la Moselle. Et pour moi, la dématérialisation, c'est vraiment une démarche assez naturelle, facilitatrice des échanges à la fois avec mes pétitionnaires, mais aussi avec les services avec lesquels je peux travailler, à la fois les services de l'État, mais aussi des services comme mes concessionnaires, les concessionnaires de réseau ou autres collectivités. C'est une organisation qui a été un petit peu particulière dans le sens où voilà, ma hiérarchie m'a fait confiance pour intégrer le programme de l'État également. Et je les en remercie parce que c'est pas évident, c'est aussi du temps qu'il faut que je prenne sur mon quotidien pour travailler et collaborer avec à la fois la DDT mais aussi l'État et donc mon éditeur de logiciel Nicolas Civil. Donc l'expérimentation, elle travaille sur plusieurs pans. On travaille sur les pendants techniques, juridiques, mais aussi pratique de la dématérialisation, donc en partenariat avec l'État qui nous fournit beaucoup de support à tout ça, qui nous fournit aussi tous les éléments de réflexion à avoir. Et je trouve que c'est vraiment une belle collaboration et des échanges très fructueux qu'on a pu avoir tous ensemble. Et là, à l'heure actuelle, on a fait les premiers tests de ce fameux logiciel et de la plateforme Plateau. Et tout semble aller plutôt bien, donc on a des bons retours, donc tout le monde est assez content. Et je pense que Monsieur Lannes, donc qui dirige ce programme au niveau de l'État, doit être également satisfait de la façon dont les choses se déroulent sur l'ensemble du territoire.
Quel conseil vous pourriez donner à une collectivité qui se lance aujourd'hui dans le programme? Concrètement, par quoi elle doit commencer?
Alors, c'est un travail commun avec l'entièreté des services. Il n'y a pas que le service urbanisme qui est à considérer. Il faut travailler aussi de manière transversale avec son service informatique, avec, comme je vous disais, l'éditeur de logiciels. Je reviens dessus, mais il est très important. Je pense notamment à Nicolas Civil qui m'a donné un grand soutien pendant toute cette opération et qui va encore continuer à me le donner. Je l'espère en tout cas. C'est aussi une grosse conduite du changement à entreprendre avec ces services, mais aussi avec les services des communes. Il va falloir qu'on soit là, à la fois l'État, mais la collectivité instructrice aussi, pour aider les communes et les agents des communes à travailler de façon différente, parce que le papier et la dématérialisation, c'est un monde complètement différent. Pour les élus aussi, c'est quelque chose de nouveau, mais qu'ils attendent et ils sont curieux de voir comment ça va fonctionner, parce que pour eux, c'est tout nouveau aussi, mais c'est une manière de rationaliser et d'apporter un nouveau service aux citoyens. Donc, j'espère que c'est du bonus pour tout le monde. En tout cas, je pense que la démarche, si elle est matérielle, certes, c'est avant tout aussi une histoire d'homme derrière. Si toutes les personnes mettent du leur, je pense que c'est quelque chose qui pourra très bien se passer.
Merci beaucoup pour ces réponses très pragmatiques et qui encouragent, en tout cas, je l'espère, d'autres collectivités à suivre votre exemple. Une dernière question, Nadège. Nous vivons une période de crise sanitaire un peu particulière depuis quelques mois, une période qui a, entre autres, profondément changé les modes de travail, mais aussi les modes de relation aux usagers pour les administrations publiques territoriales. Que veut dire la dématérialisation, selon vous ?
Alors pour moi, la crise sanitaire, certes, elle était assez compliquée, mais j'ose dire qu'elle a apporté un peu d'eau à mon moulin dans le sens où voilà, on a dû se mettre à la dématérialisation bon gré mal gré. Et tout le monde, que ce soit les services, mais les pétitionnaires aussi, ont su jouer le jeu. Donc, on a fait une première démarche de dématérialisation durant tout ce temps de confinement. Et ça a très, très bien fonctionné. Donc, là aussi, tout le monde a pu voir qu'on pouvait le faire, alors qu'on n'était encore pas totalement équipé ni totalement prêt à passer le pas. Voilà, je trouve que c'était très encourageant et donc c'est la preuve qu'on peut y aller.
Merci beaucoup, Nadège.
Je vous en prie, bonne journée.
Merci encore à Sylvie Devin de la DDT du Rhône et à Nadège Kiefer de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Je me joins à vos remerciements, Johanna, car c'est pour elles et pour leurs équipes un très grand investissement. En plus, elles font ce travail pour l'ensemble de la communauté. Elles ne le font pas que pour elles. Donc je les remercie vraiment très vivement.
Et pendant qu'on est dans les remerciements, merci à vous, Jean-Baptiste, pour toutes les explications que vous nous avez fournies. Vous ne bougez pas, on va poursuivre avec Michel et avec les questions de nos auditeurs.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions.
Michel, on a encore pas mal de questions sur ce programme des maths ADS.
Oui, beaucoup de questions de nos auditeurs. On peut peut-être commencer avec des questions qui ont été posées par plusieurs auditeurs sur la connexion à plateau des gestionnaires d'énergie comme le gaz et l'électricité. Alors plus précisément, Camille nous demande qu'en est-il de la connexion d'Enedis à plateau ? Et Terega nous dit qu'en tant qu'exploitant de réseau de transport de gaz, nous sommes informés, consultés pour tout permis de construire, certificat d'urbanisme, permis d'aménager dans nos servitudes d'utilité publique. Actuellement, nous recevons ces demandes reçues via des canaux hétérogènes, selon le service instructeur, format papier ou mail, et nous y répondons en traitant ces demandes à partir de notre propre logiciel interne. Plateau doit être pour nous une opportunité de simplifier ces opérations. Comment les parties consultées dans le processus des permis de construire auront accès à Plateau et comment s'assurer que Plateau sera compatible avec les logiciels de traitement des parties consultées ?
Alors, c'est intéressant parce que votre premier auditeur a posé la question et votre deuxième auditeur de Terega a posé... à donner la réponse. L'objectif, c'est que les gestionnaires de réseau soient raccordés à Plateau, clairement. On travaille à l'heure actuelle avec Enedis et aussi Terega, donc un représentant, je crois, de la direction informatique de Terega, pour qu'on puisse raccorder leurs outils, l'outil de Enedis. Je crois qu'ils ont vocation à en changer, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et l'outil de Terega pour justement les raccorder à Plateau pour que les consultations qui les concernent leur arrivent directement dans leur outil. C'est la même chose que pour le ministère de la Culture. Hein, finalement, ce sont des services consultés, j'allais dire, comme les autres, pas exactement de la même nature, au sens de nature juridique du terme. Mais l'objectif, c'est qu'ils soient bien consultés par l'intermédiaire de Plateau. Après, il y a des collectivités qui déjà communiquent avec leurs services de manière dématérialisée, avec les services gestionnaires. Donc nous, on n'est pas dogmatique. Ce qu'on souhaite, c'est mettre en place une solution et que cette solution soit pratique pour tout le monde. En attendant, s'il y a des collectivités et des fournisseurs et des gestionnaires de réseau qui trouvent d'autres manières, on ne va pas les embêter. C'est pas le sujet. Mais on perçoit, que ce soit de la part des collectivités ou que ce soit de la part des gestionnaires de réseau, comme le disait Terega, que nous avons intérêt tous à ce que les gestionnaires de réseau se raccordent sur Plateau. Et puis, il y avait une sous-question, c'est comment Plateau sera compatible avec les outils des gestionnaires de réseau. Alors, en fait, c'est plutôt les outils des gestionnaires de réseau qui seront compatibles avec Plateau. Donc, on a mis en place, on l'avait évoqué l'année dernière, un standard, donc une standardisation, où on a défini ce que c'était qu'un avis, ce que c'était qu'un dossier. Donc, c'est une espèce de dictionnaire, si vous voulez, un dictionnaire des données. Et il faut se fonder sur ce dictionnaire pour se raccorder à Plateau et bénéficier des services. Donc, et c'est ce que nous expérimentons avec, justement, Enedis et Teriga, puisque ça fait ces deux services avec lesquels on travaille. Il y en a d'autres aussi. Et puis, on a vocation à, finalement, adresser l'ensemble des services consultés. Alors, Rome ne s'est pas construit en un jour, hein, donc ça va prendre un peu de temps. Mais à la fin, tout le monde sera raccordé à Plateau. On reviendra sur la problématique des gestionnaires de réseau et des services consultés. Je pense que c'est important, puisque visiblement, certains nous écoutent.
On a une autre question ? Oui.
On a beaucoup d'autres questions. On a une question de Christine sur les dossiers de compétences État pour des communes qui sont dotées de documents d'urbanisme. Est-ce qu'on utilisera Rio pour ces dossiers-là ?
Alors, c'est des sujets qui sont compliqués. Je vais pas répondre sur le siège. J'ai peur de vous dire des bêtises. J'ai dans mes équipes des gens qui pensent à l'ensemble des scénarios, des personnes en particulier. Je vais le citer parce qu'il fait un travail formidable, Jean-Michel Coste, en tant que responsable produit, et qui connaît les différents cas d'usage et qui est en capacité de répondre. Donc, je note la question et pour pas vous dire de bêtises, je reviendrai avec la réponse ou on la postera sur Osmose pour y répondre.
On poursuit.
Alors, une question de Patrick qui demande « Qu'en est-il du marché national pour numériser les dossiers papier qui seront déposés à partir du 1er janvier 2022 pour organiser une instruction uniquement dématérialisée ?»
Alors, ça dépend d'où Patrick parle. Est-ce que Patrick parle d'une collectivité territoriale ou est-ce que Patrick parle d'une direction départementale des territoires ? En fait, du côté de la direction de programme, nous travaillons sur un marché de numérisation pour les dossiers instruits par l'État et qui seraient déposés papier, en particulier les dossiers qui seraient sur les communes au RNU.
Il est à la DDTM 66. Patrick.
Alors voilà, donc pour notre collègue donc de la DDTM 66, on travaille sur ce marché pour que les DDT n'aient pas à numériser ces dossiers et que ce service leur soit proposé. Donc on est en train de l'établir. On espère qu'il sera mis en place. C'est une grosse tâche parce que c'est compliqué de l'interfacer avec le processus déjà compliqué de l'instruction des dossiers. Mais ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. J'ai eu une réunion pas plus tard qu'hier sur cette question et on a relancé les services sur ces questions-là. On voudrait pouvoir mettre ce marché en place pour la date du 1er janvier 2022, comme il le précisait. Si Patrick avait été dans une collectivité, je lui aurais dit que le marché que j'étais en train de construire, malheureusement, ne lui était pas dédié. Alors, pas que je voulais pas le faire, mais c'est que ça pose des tas de problèmes juridiques. Et puis que je suis déjà un peu en retard sur ce marché pour les DDT. Donc, je voudrais d'abord honorer les DDT, les besoins des DDT. Après, je reviendrai éventuellement, le cas échéant, si ça devient nécessaire, on se posera la question de l'étendre, mais ça va poser évidemment des problèmes de code des marchés publics. Donc on reviendra plus tard sur cette question.
Alors il nous reste une petite minute pour prendre une dernière question. Pour celles qui sont nombreuses et qu'on n'a pas pu prendre aujourd'hui, ne vous en faites pas, on les note bien. Et on y répondra évidemment dans une prochaine émission consacrée au programme des maths ADS. Michel ?
Oui, alors c'est un petit peu difficile de choisir parce qu'il reste pas mal de questions des auditeurs, mais auxquelles en effet on répondra la prochaine fois. Peut-être je vais regrouper à nouveau deux questions qui ont à voir avec l'historique des dossiers et l'archivage. Une question de Valérie qui dit que l'urbanisme gère l'occupation des sols. Et est-ce que ce programme va permettre de conserver un historique du dossier par rapport au lieu et qui est l'objet de demandes diverses, les certificats d'urbanisme, les déclarations de projet, les permis de construire, les DIA, etc. Et Julien demande si l'archivage des dossiers d'urbanisme post-consultation, et donc il signale que c'est aussi une forte demande pour stopper la multiplication des stockages et limiter l'impact environnemental. Donc est-ce que ce plateau, par exemple, ou tout ce programme va contribuer à archiver les dossiers, alors, conserver les historiques?
Je vois les yeux de Johanna et je me dis que je ne vais pas pouvoir vous répondre. Oui. C'est deux questions qui sont absolument passionnantes. D'abord, l'historique, où est-ce qu'il doit être géré? Donc ça, c'est dans les dossiers métiers, mais dans les applications métiers, on y reviendra. Et sur l'archivage, c'est une vraie question. On travaille avec... on a un peu détouré la problématique avec le service interministériel des archives de France, qui dépend du ministère de la Culture, mais je ne voudrais pas répondre. Et puis, je vois Johanna qui me dit qu'il y a une émission à 11h et qu'il faut qu'on rende l'antenne, voilà, comme dans la vraie vie, donc il faut que je me taise.
Mais c'est la vraie vie, c'est la grosse contrainte de la radio. Malheureusement, on est un peu contraint par le temps. On refera d'autres émissions, hein. C'est promis, Jean-Baptiste, vous êtes le bienvenu concernant le programme des maths ADS. Merci Michel, voilà qui conclut ce nouveau numéro du MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, consacré aujourd'hui au programme des maths ADS. Merci Michel Félep de m'avoir accompagné durant cette émission. Je rappelle que vous êtes chargé de mission, animation territoriale, DHUP, DGALN. Et nous étions aujourd'hui avec le directeur du programme des maths ADS. Merci Jean-Baptiste Lannes et merci à vous de nous avoir suivis. Pour ceux qui voudraient retrouver les émissions précédentes, et il y en a 3 consacrées à ce programme des maths ADS, direction le site de Radio Territoria pour retrouver tous les podcasts. Restez bien à l'écoute de vos territoires sur Radio Territoria.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, à réécouter et télécharger sur Radio Territoria et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles.